répondeur et c'est parti.
Chers auditeurs, en la mémoire de Margaret Thatcher, je vous demanderai d'observer une minute de bon corps. Voilà, c'était Philippe de Bellegarde dans l'Ain. Ciao, ciao.
On m'a toujours dit qu'il ne fallait dire aucun mal des personnes décédées. Alors pour ce qui est de Margaret Thatcher, je ne dirai rien, mais j'en pense pas moins. C'était Bernard à Lyon.
C'est terrible le drame des sans-abri. C'est terrible. Regardez cette pauvre Margaret Thatcher. Même le diable ne veut pas l'accueillir.
Margaret Thatcher est morte. Vous allez pouvoir vous défouler les AMG. Après, il n'y en a plus beaucoup après elle. Hein. Allez, soyez bons et j'attends vos messages sarcastiques. À bientôt.
Cher Daniel, et bonjour à toute l'équipe de là-bas, c'est J'y suis, ici Flora. Alors, il y a une vingtaine d'années, que de colis nous avons envoyés en Angleterre, que des amis nous ont demandé, beaucoup d'Anglais qui venaient en France acheter le disque interdit, où il y avait la chanson de Renaud, à part, bien sûr, Madame Thatcher, ta-ta-ta, ta-da-da-da, ta-ta-ta, nanana, nanana, nanana. Alors, moralité des courses, le disque a fait un tabac en Angleterre et s'est passé sous le manteau, la chanson a même été traduite en anglais. Vont-ils jouer ça à ses obsèques?
Constatant qu'une partie des céréales cultivées était mangée par les oiseaux, Mao Tse-tung déduisit qu'en les supprimant, tout le blé profiterait aux Chinois, dont acte. Affirmant qu'une partie du travail est accaparée par les étrangers, Marine Le Pen conclut qu'en les expulsant, tous les emplois profiteront aux Français. Ça paraît logique et frappé au coin du bon sens. Mais pour en revenir à Mao le clairvoyant, la récolte, qui devait être mirobolante, n'étant plus pillée par ces saletés de piaf, fut en réalité catastrophique. C'est qu'en l'absence de prédateurs, les insectes avaient tout ravagé, laissant les Chinois sur leur faim. Aussi, quand je vois un homme ou une femme brandir une solution simple à un problème complexe, je pense toujours aux oiseaux de Mao. C'est Christine du Limousin.
Oui, bonjour Daniel, c'est Guillaume. J'écoute attentivement l'émission d'aujourd'hui et il me semble que l'immense Marzouki fait un peu de langue de bois sur sa minimisation de l'importance d'Ennahda et du danger islamiste en Tunisie. Quel est ton avis?
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Voilà, moi j'aurais aimé que vous posiez la question au président tunisien, l'influence des pays du Golfe. Ah, parce que c'était pas clair ses réponses à la démocratie, à l'expérience tunisienne, hein, ça me fait rigoler moi. Et j'aurais aimé aussi que vous faites un reportage sur le Polisario. Ça aurait été bien avec les réfugiés. Alors Daniel, est-ce que c'est un sujet très 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 dangereux ou t'as pas envie de le faire? Voilà, j'aimerais bien savoir. Allez, bonne continuation. Au revoir.
Voilà, je vais pas parler trop fort parce que je crois que j'ai détient une information que personne d'autre n'a pour l'instant et qui pourrait faire beaucoup de bruit. Voilà, je vous explique. Il a fait récemment un discours sur l'église qui devait servir les plus pauvres et maintenant il dit qu'il va faire sa messe de Pâques à partir d'une prison. Et je crois que j'ai réalisé que l'église catholique romaine s'est fait infiltrer par un communiste.
Oh là 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 là, drôle d'information, mais pas entièrement fausse. En tous les cas, c'est parfait pour lancer notre sujet du jour. Monsieur tout blanc. Monsieur tout blanc. Oh, il faut avoir un certain âge pour se souvenir de cette chanson de Léo Ferré, Monsieur tout blanc. En tout cas, voilà, on a un pape qui dépote, on a un pape des pauvres, on a un pape modeste. Un pape qui fait l'unanimité, sauf, il y a un petit bruit de casserole qui suit ce pape dès qu'il est arrivé, dès qu'il a été élu, on entend un petit bruit de casserole. Alors là, il y a ceux qui entendent le petit bruit de casserole et il y a ceux qui ne l'entendent pas du tout. Il y a ceux qui voudraient étouffer le bruit de casserole et d'autres qui disent « Mais pourquoi étouffer ce bruit de casserole puisqu'il n'y a pas de casserole ?» C'est cette casserole qui va nous intéresser à partir d'aujourd'hui, ce petit bruit qui va nous intéresser. Auparavant, aujourd'hui, on va aller faire un tour dans la manif. Vous savez qu'il y a une manif, un peu partout en France, il y a des manifs. Aujourd'hui, c'était une journée de grève. Là-bas, si j'y suis, n'est pas en grève aujourd'hui, bien que l'envie ne nous ait pas manqué. On a préféré, pour expliquer les raisons de cette journée et de ces manifs, appeler Gérard Filoche, que vous connaissez, qui est un membre du Parti Socialiste, ne l'oubliez pas en l'écoutant, qui est aussi un ancien inspecteur du travail et qui est un adversaire, mais alors farouche et déterminé, de l'ANI. L'ANI, pour lui, n'est pas un ami. Gérard Filoche, bonjour. Je suppose que vous êtes assez triste aujourd'hui suite au décès de Margaret Thatcher. Mais je sais que vous êtes dans la manif contre l'ANI. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous expliquer ce que vous faites là et qu'est-ce que c'est que ce combat ?
Il s'agit de défendre le code du travail. C'est un combat presque toute ma vie. De défendre les femmes qui sont à temps partiel, de défendre les jeunes qui sont en TDD, d'empêcher qu'il y ait des contrats à durée indéterminée, intermittent, de faire qu'il y ait encore des droits pour les comités entreprises et que les patrons leur piquent pas 20% de leur budget quand il y a une expertise, de défendre les CHSCT qui sont menacés dans le cadre de l'ANI, de protéger contre le licenciement qui maintenant va être allégé, fast, quick, rapide, et sous la botte du patron, de faire que les salariés puissent encore aller au prud'homme avec des délais pour y réfléchir, se préparer, se défendre. Il y a 27 articles dans l'ANI qui vont donner, je crois, autour de 18 articles de loi qui sont tous régressifs. J'en ai cherché un qui pouvait être bien. J'en ai cherché un en disant, quand même, on peut. Eh ben non, c'est pas le cas. Je fais des réunions tous les soirs, les gens ouvrent les yeux et leurs oreilles quand ils entendent ça. Évidemment, c'est un truc parfois un peu expert. Mais vous savez, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, la majorité écrasante du mouvement syndical, tous ceux qui s'y connaissent un peu même dans la CFDT, eh bien, tous ceux-là savent que c'est une mauvaise loi. Et pourquoi la gauche fait-elle ça ? Je n'en reviens pas, moi. C'est mon parti, c'est la gauche. J'ai tellement envie que ça change, que le travail avance et que le capital recule, si je peux me permettre, que je ne comprends pas cette loi. Et je demande à mon gouvernement, à mon président, d'arrêter. Ils vont dans le mur avec ça.
Gérard Filoche, parce que votre confrère Michel Sapin, qui est ministre du Travail et qui appartient au même parti politique que vous, dit « Je ne comprends pas quand on dit que c'est une régression ».
Eh bien là, il faut qu'il regarde ce que c'est que la vie d'une caissière dans Monoprix, quand on va lui faire 2 coupures par jour avec des durées dont on ne sait pas, quand on ne va pas savoir quel délai de prévente pour les changements d'horaire, quand le patron va lui permettre de faire 8 paquets d'heures complémentaires par an, quand les heures complémentaires à 25% ne vont plus exister, quand il dit qu'il y a un plancher à 24 heures pour les femmes à temps partiel, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un plancher, c'est une passoire, puisqu'il y a au moins 6 dérogations, d'abord pour les millions qui sont déjà à temps partiel, ensuite pour ceux qui seront embauchés, le patron pourra leur dire oh, « allez, je te prends pour 18 heures », pour celles qui ont plusieurs contrats, pour celles qui ont 2 employeurs, pour les moins de 26 ans, il y a même une discrimination par l'âge. C'est-à-dire qu'en vérité, on a flexibilisé, en lissant même leur salaire à l'année, des millions de femmes à temps partiel. Est-ce que vous voulez que je fasse la même démonstration pour les contrats à durée indéterminée, intermittent ? C'est incroyable qu'est ça ! Pourquoi fait-il ça, Michel Sapin ? Il a bien regardé. Alors on va me dire c'est à titre expérimental dans le chocolat, dans les articles de sport et dans la formation. Mais le chocolat, c'est pour ouvrir à tout l'agroalimentaire. La formation, c'est pour ouvrir à tous les services. Les articles de sport, c'est pour ouvrir à tous les loisirs. Je sais lire, nous savons lire, nous sommes des experts. Si Michel n'est pas un expert en droit du travail, nous savons dans le détail ce que ça veut dire pour la vie des gens. Le diable est dans les détails, il ne suffit pas de me dire « il y a la formation professionnelle », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 20 heures par an limité à 120 heures. Il suffit de me dire « il y a la complémentaire santé », ce n'est pas vrai, c'est pour 2016, ça sera avec un panier de soins réduit, les employeurs paieront moins que ce qu'ils payent déjà aujourd'hui, ça ira dans le cadre des assurances privées, AXA, Alliance, Generali. C'est-à-dire que nous aurons une situation où, en fait, ça ne rapportera rien aux salariés. Alors, on fait du baratin sur les complémentaires pour une petite poignée de salariés. Mais s'il y a de l'argent, il n'y a qu'à le mettre dans la sécurité sociale. On est de gauche, bon sang. Alors ensuite, après, on va me dire, oui, mais non, l'administration va homologuer les plans de licenciement des patrons. Mais homologuer, je suis un juriste, je sais ce que veut dire le mot homologuer. C'est pas remettre en cause la cause du licenciement, ni discuter le motif économique, ni même discuter le nombre de licenciés qu'il y a. Ça veut dire, oui, homologuer en 21 jours, c'est-à-dire plus rapidement. Je sais lire le droit, il y a marqué que c'est des délais préfixes. préfixe. Préfixe, c'est-à-dire qu'ils sont incontournables. Les gens qui ne savent pas ce mot-là, ils peuvent être mis en cause par le juge. Ça veut dire que la plupart des luttes actuelles de PILPA, de Molex, de Fralib, de PSA, de Renault, de Mittal, de Goodyear, tous ces luttes-là seront avortées. Et le patronat va se ruer dessus. Michel Sapin fait un mauvais calcul. Parce que s'il fait cette loi pour les agences de notation, s'il fait cette loi pour imiter ce que, comment il s'appelle, Ars avait fait, tiens, Ars, en Allemagne, oui, ça a été cité l'autre jour. Mais Hart, il a fini comme Kaljak, hein, corrompu et condamné. Et maintenant, le SPD allemand regrette d'avoir fait les accords Hart. Le SPD allemand essaie de faire une campagne contre Merkel qui revienne justement sur ce qu'il avait dit dans les accords Hart. Pourquoi la gauche fait-elle des concessions au MEDEF? Pour avoir des retours de l'emploi? Mais pas du tout. Madame Thatcher, ça c'est bien comme Madame Parizeau, et demain Monsieur Gattaz réclame 20 autres milliards de plus. Ce sont des rapaces, ils ne seront jamais satisfaits. C'est pas en conciliant et en leur faisant des cadeaux que la gauche va pouvoir résoudre le problème du chômage. Il va s'aggraver.
J'ai l'impression que déjà Margaret Thatcher sourit dans sa tombe.
Écoutez, c'est la barbare des temps récents. Et je suis avec Ken Loach quand tu dis qu'il n'y a qu'à privatiser ses obsèques. Parce que c'est vraiment le modèle. C'était Sarkozy, c'était l'idole de Sarkozy. Bon, allez, adieu. Tu vends l'ami de Pinochet et celle qui traitait Mandela terroriste. À bientôt.
On dit que c'est pas bien de dire du mal de ceux qui viennent de mourir. Alors j'ai décidé de dire du bien de ceux qui sont encore vivants. Et je lève ma coupe de champagne au nom de tous ceux et celles qui se réjouissent de la disparition de Margaret Thatcher.
Le repère de La Basse J'y suis se tiendra le mardi 9 avril à 20h30 à la brasserie du Chardon à Crôle, en Isère. Le sujet, tous pourris avec un gros point d'interrogation. Quel que soit le parti, le pays, sommes-nous condamnés à être dirigés par des corrompus? En France, Cahuzac, Sarkozy, Chirac, Strauss-Kahn, Tiberi, Pasqua, etc. En Allemagne, Kohl et Staubl. En Italie, Berlusconi, Bozzi. En Angleterre, Smith, Blair, McNally. Pourquoi la démocratie, qui est présentée comme le meilleur des régimes, amène si souvent au pouvoir des escrocs? Quelle est la solution? Poutine ne figure pas ce palmarès, car son cas ne relève pas de la démocratie. Nous aurons avec nous le représentant du 5 étoiles de Beppe Grillo, qui est M. Roberto Bonifazi. Et nous vous espérons nombreux. La bière est bonne.
Oui, bonjour, Céline, 45 ans, ouvrier viticole. Je viens de voir une photo là, à la télé où c'est un pauvre mec homosexuel qui s'est fait dépouiller la gueule. Ça sent le fascisme, c'est honteux, honteux. À la limite, on va arriver à la loi du talion, malheureusement. Voilà, salut.
Aux AMG du Dijonais, nous vous attendons mardi 9 avril, 20h, à l'annexe 47 rue de Vosges. À bientôt à tous.
L'alpiniste. Il me parlait de ses conquêtes, du théâtre de ses exploits, mais il n'allait, pour ses grimpettes, pas en haut de l'Himalaya, mais dans le corsage de Babette, sous la jupe de Rebecca, où il ne risquait guère, pas bête, de se geler le bout des doigts. C'était le poète au ras des pâquerettes. Salut.
Mesdames et messieurs, bonjour. L'énorme surprise d'hier soir au Vatican. Pour la première fois, un pape venu d'Amérique latine, un jésuite, et c'est une première aussi. Il a choisi de s'appeler François, vous le savez, en hommage à Saint François d'Assise. Sa simplicité, son sourire ont conquis les téléspectateurs et la foule hier soir sur la place Saint-Pierre.
À l'annonce de la divine nouvelle, le peuple argentin de Buenos Aires a spontanément afflué
Habemus Papam
vers la cathédrale pour célébrer son ancien archevêque.
Habemus Papam.
C'est une grande émotion.
Habemus Papam.
J'ai assisté à beaucoup de ses homélies et je suis vraiment très émue.
Il faut prier pour sa santé. Je travaille en prison et l'an dernier, il est venu et a lavé les pieds d'un prisonnier. C'est un saint.
Émotion de ceux qui l'ont connu. dans l'exercice de son ministère auprès des plus pauvres.
Regalamos al viva el Papa. Viva el Papa. Viva el Papa.
En Argentine, des voix s'élèvent contre lui pour dénoncer des liens avec la dictature après 1976, période trouble pendant laquelle l'Église ne s'est pas opposée au régime. Son rôle précis est encore mal connu. Son rôle précis est encore mal connu.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao et Guy Vanctil, Monsieur Tout Blanc.
Flight number 2, arriving from
New York. Amen.
Un regard presque étonné face à la foule.
TF1, 14 mars 2013.
En 2005, déjà, il avait failli devenir pape avant de dire aux cardinaux qu'il n'était pas prêt.
Buonasera.
Cette fois, Jorge Mario Bergoglio a accepté, lui, le jésuite austère, qui jusque-là a fait de la lutte contre la pauvreté son combat essentiel. Il est connu pour ses goûts simples et son humilité. À Buenos Aires, il a refusé d'occuper la somptueuse résidence des archevêques, préférant vivre dans un petit appartement de banlieue. Il se déplace en bus et en métro, fait ses courses au supermarché. Et puis il adore le football. Il est supporteur de ce petit club de foot argentin, San Lorenzo.
Alors les vitraux, les orgues, l'encens, l'émotion, le recueillement, et entendez-vous ce petit bruit de casserole? Petit bruit léger de casserole. Vous l'entendez? Alors, voilà, il y a une partie des auditeurs qui ont entendu ce bruit de casserole. Et une autre partie des auditeurs qui n'ont absolument rien entendu. Étrange phénomène, surdité ou illusion? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Ce bruit de casserole, que certains n'entendent absolument pas, que d'autres entendent et n'entendent que ça, au devant ma voix, qui n'écoute même plus les orgues, ni ce que j'essaye de leur dire, que ce bruit de casserole, quelle est la vérité? En quoi consiste ce bruit de casserole? Quel est le doute que nous pourrions avoir et que ce bruit de casserole représente? Eh bien, ça a déjà été suggéré dans ce que vous venez d'entendre. C'est le passé du pape François. Que faisait-il au temps de la dictature argentine? Entre 1976 et 1983, alors qu'il était principal des jésuites à Buenos Aires, un poste très important. 1976-1983, c'est la dictature en Argentine. Une dictature particulièrement violente, particulièrement puissante, qui doit sa puissance et sa violence au concours extrêmement étroit et zélé de l'Église catholique argentine, dont le père Bergoglio faisait partie à l'époque. Quel a été son comportement? Quelle a été son attitude, notamment envers deux jésuites, le père Iorio et le père Yalix? Quelle a été son attitude vis-à-vis de ces deux prêtres, qui étaient des prêtres de la théologie de la libération? À l'époque, la théologie de la libération était vue comme le communisme, comme le diable absolu. Or, ils étaient prêtres aussi, et ils étaient sous sa responsabilité, et ils ont été arrêtés, et ils ont été torturés. Certains, voilà, un bruit de casserole terrible, une tache
sur la magnifique robe blanche immaculée du pape François. D'autres ne voient rien à dire. Il a fait ce qu'il a pu. Il n'a rien fait du tout, d'ailleurs. Il n'a rien fait du tout. Il s'est tu. Il s'est tu. En 1949, un certain Léo Ferré, nous entendrons cette chanson au cours de cette émission, écrivait une chanson intitulée « Monsieur tout blanc ». Et il s'adressait, on est en 1949, à un certain Pie XII, et il lui disait « Vous vous taisiez il y a peu, vous vous taisiez il y a peu, on est en 1949 ». Léo Ferré faisait allusion à la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle Pie XII, effectivement, et le Vatican, effectivement, a observé un certain silence. Oh, comparaison n'est pas raison, le rapprochement s'arrête là, les temps changent. La chanson de Léo Ferré fut interdite par le comité d'écoute de la Radio Nationale. Aujourd'hui, on peut l'écouter. Les temps changent, mais le bruit de casserole demeure.
Tout le monde en place pour la chanson, c'est pas?
Oh oui! Oh oui!
On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
Clamotte pour faire de l'eau bénite.
On prendrait l'eau du lac Clamotte pour faire de l'eau bénite.
On partirait une belle grosse chope de Sainte Vierge en plastique. On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
On aurait de grandes processions d'Amos à Malartic.
On aurait de grandes processions d'Amos à Malartic.
On en vendrait-tu des lampions, un pape c'est fantastique. On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
On va-tu n'avoir un pape chez nous? On va-tu n'avoir un pape?
Christian Terras, je suis l'éditeur responsable de la revue et de l'hebdomadaire Goliath, qui est une revue catholique critique.
Alors là, vous intervenez un petit peu partout avec l'élection de ce nouveau pape, en disant, attention, ce pape a un passé trouble en Argentine.
Oui, l'élection de ce pape pose une question de morale politique eu égard à son passé, à son histoire, notamment au moment de la dictature du général Videla en Argentine, de 1976 à 1983, lui étant, de 1973 à 1979, provincial des jésuites. C'est le supérieur de tous les jésuites d'Argentine. C'est-à-dire quelqu'un qui a la fonction quasiment d'évêque. Et quand on connaît l'influence de la congrégation des jésuites en Amérique latine et précisément en Argentine, c'est un rôle considérable. C'est une responsabilité très influente qui l'amène à côtoyer les gens du pouvoir. Un homme influent.
Alors, pour bien préciser les choses, il faut peut-être rappeler ce qu'a été le rôle de l'Église catholique pendant cette période de la dictature argentine de 76 à 83.
Le rôle de l'Église catholique et de sa hiérarchie en Argentine, est le pire rôle que l'Église catholique ait eu en Amérique latine sous les dictatures. Quand je prends l'exemple de la dictature du Chili avec Pinochet, il y a eu des évêques, il y a eu un cardinal de Santiago qui a pris des positions très frontales par rapport à la dictature de Pinochet, qui a organisé, dans le cadre du vicariat de la solidarité, un certain nombre de démarches pour protéger des prêtres, pour protéger des religieux, des religieuses. Donc il y a eu des secteurs qui ont été avec Pinochet, mais il y a eu des secteurs qui sont rentrés en résistance contre Pinochet. Dans l'église du Brésil, quand elle était sous les dictatures, il y a eu aussi des gens qui étaient avec la dictature, mais il y a eu des évêques qui ont été contre la dictature. Or, en Argentine, la quasi-totalité des évêques vont collaborer avec Videla, à tel point qu'en 1976, il y a une réunion avec les responsables militaires de la junte de Videla et les principaux responsables de l'épiscopat pour mettre au point une collaboration interactive et se donner des feux verts mutuels par rapport au signalement de personnes jugées subversives dans la société argentine et dans l'Église. Il y a des documents qui actent cette collaboration concernant le signalement de personnes jugées dangereuses. L'implication de l'Église d'Argentine par sa hiérarchie est totale, excepté quatre évêques qui vont résister, dire qu'il n'est pas possible d'accepter cette situation au regard des droits de l'homme.
Quatre évêques sur combien ?
Sur 80 à peu près.
C'est ça. Alors, dans ce cadre-là,
Est-ce que la Compagnie des Jésuites a un comportement différent ?
Non. Dans ce contexte-là, et dans cet accord de collaboration, tous les responsables religieux, en dehors des évêques, sont aussi censés signaler à la police, à l'armée, de la junte militaire, les personnes sur lesquelles ils ont des doutes concernant leur comportement politique, social, concernant leur influence, notamment dans les quartiers populaires, comme étant des foyers de résistance. C'est dans ce contexte-là que Jorge Bergoglio, provincial des jésuites d'Argentine, va avoir un rôle complaisant, trouble, sinon ambigu, avec la dictature de Videla par rapport à un certain nombre de ses confrères, et notamment deux d'entre eux.
Complaisant, trouble, ambigu. Là, il faut qu'on soit un petit peu précis, parce que votre parole a un certain poids. Est-ce qu'aujourd'hui, ce nouveau pape peut dire « j'ignorais, je ne savais pas ce qui se passait, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait » ?
C'est pas possible, il ne peut pas dire ça, parce qu'en 1972, avant d'être élu provincial des jésuites, il est l'accompagnateur spirituel d'un groupe paramilitaire qui s'appelle la Garde de Fer, qui est un groupe paramilitaire de 15 000 militants, qui sont à la solde de l'amiral Massera, qui sera le centre nerveux, j'allais dire, de la dictature de Videla concernant la torture et la disparition des 30 000 personnes qu'a fait cette dictature. Et donc, Jorge Bergoglio est l'accompagnateur spirituel de ce groupe paramilitaire. Ce groupe paramilitaire va s'autodissoudre en 1974 pour des dissensions internes. Mais Bergoglio, étant élu provincial, il a en charge l'université de Buenos Aires. Il va trouver le moyen de nommer à l'université Salvador de Buenos Aires, comme recteur et comme directeur, deux membres de ce groupe paramilitaire. Bergoglio est parfaitement au courant de l'idéologie de ce groupe paramilitaire, qui est une idéologie nationale catholique. Quand il nomme deux de ses responsables à la tête de l'université jésuite de Buenos Aires, il sait ce qu'il fait. Il était parfaitement au courant de ce qui se passait ou de ce qui allait se passer.
Alors voilà, Christian Terras, le directeur de Golias, la revue Cato et Critique, étonnante d'ailleurs, étonnant ces revues, lui accumule les soupçons, on peut dire comme ça, concernant le passé du pape François. Alors, ces accusations, ou ces soupçons, disons, ont été très vite, aussitôt, dès l'élection du pape, ces doutes et ces soupçons ont été exprimés, et ces doutes et ces soupçons proviennent, pour la plupart de chercheurs, d'historiens et de témoins argentin, dont Horacio Verbitsky, qu'on va trouver un peu plus loin, qui a fait des recherches très longues sur le rôle de l'Église catholique pendant la dictature, en général en Argentine, pendant la dictature, et qui s'est intéressé plus précisément au rôle du pape, sans pouvoir apporter vraiment la preuve absolue, le témoignage absolu. Donc, on est là pour l'instant dans un faisceau de témoignages et de documents concernant la conduite du pape actuel à l'époque, lorsqu'il était principal des jésuites de Buenos Aires. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'a rien fait contre la dictature, pas plus que, d'ailleurs, que la majorité des évêques et de l'Église catholique argentine, qui était au contraire toute zélée et toute en appui de la dictature de façon extrêmement proche, c'est le moins qu'on puisse dire, on verra dans les témoignages qui viennent. Alors, ce contre quoi luttait cette majorité de l'Église catholique, c'était la théologie de la libération, ce courant de l'Église catholique qui s'est développé, qui se développait à l'époque et qui s'est développé en Amérique latine, qui existe toujours et qui a une autre vision du rôle de l'Église par rapport notamment à la pauvreté, par rapport aux inégalités, une vision beaucoup plus politique des choses. Christian Terras.
La théologie de la libération, c'est une théologie qui a pour direction l'option préférentielle pour les pauvres. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du caritatif, on ne fait pas de la compassion émotionnelle caritative, on donne des outils de lecture biblique aux populations, aux communautés de base, et notamment dans les quartiers populaires, pour que les gens soient sujets de leur libération et pas objets d'un discours de libération. C'est ça qui fait la théologie de la libération par rapport à la théologie classique.
C'est ça qui va faire que la théologie de la libération va avoir du succès, va avoir un grand succès en Amérique du Sud, pas seulement d'ailleurs en Afrique, et relativement aussi chez nous, mais c'est aussi pour ça qu'elle va être pourchassée et on pourrait dire persécutée.
Oui, parce que la théologie politique va être tout de suite réduite à être un instrument uniquement marxiste par les tenants de l'institution catholique qui disent que la théologie de la libération est un outil d'infiltration marxiste dans l'Église. Et donc, il va y avoir une purge de la théologie de la libération. Il va commencer à y avoir, dans les années 70-80, une croisade, une inquisition, qui est menée notamment par Jean-Paul II et Joseph Ratzinger, dans le contexte d'un remake de la guerre froide que Jean-Paul II rejoue en Amérique latine. Fort de son expérience du bloc communiste, il considère que les dictatures de Pinochet et de Videla sont des remparts pour maintenir l'Occident chrétien face au marxisme menaçant Cuba, l'URSS en base arrière. Donc on soutient Videla, on soutient Pinochet pour expurger l'Église de son cancer marxiste représenté par la théologie de la libération. Donc on a une géopolitique américaine, très interventionniste en Amérique latine, qui va rencontrer, qui va croiser la géopolitique de Jean-Paul II et de Joseph Ratzinger pour extirper ces foyers que représente la théologie de la libération, et on collabore avec les pouvoirs politiques en place et les juntes en place à l'époque.
Habemus Papam.
François d'Assise.
Le pape François.
L'homme.
16 mars 2013.
Pour moi,
de la pauvreté,
c'est l'homme de la pauvreté.
L'homme de la pace.
L'homme de la paix.
Che ama e custodisce il creato.
L'homme qui aime et protège
noi abbiamo,
ce qui a été créé.
Creato una relazione
le Créateur. Nous avons en ce moment une relation qui n'est pas si bonne que ça avec ce qui a été créé. Et qu'est-ce qui nous donne ce sentiment de paix? C'est l'homme pauvre. Moi, j'aimerais tant avoir une église pauvre et pour les pauvres.
Alors, c'est facile de dire que l'église doit être proche des pauvres. Mais on aurait aimé qu'il le dise lorsqu'il était provincial des jésuites. On aurait aimé qu'il le dise lorsqu'il était primat de l'église d'Argentine. Mais je pense qu'il faut lire sa vision de la pauvreté comme étant une vision compassionnelle de la pauvreté, une vision caritative de la pauvreté, une vision de proximité avec les pauvres, mais non pas une vision d'éradication des structures qui créent la pauvreté. Donc c'est un discours light qui n'entamera pas les postures des puissants de ce monde par rapport à ce qu'ils font endurer à la planète en termes de pauvreté et de misère. Ce que je voulais dire aussi sur Bergoglio, c'est que Bergoglio, il a fait docteur honoris causa le général Massera, le grand chef de la dictature et de la torture. Ça, on ne le dit pas. En 1977, l'amiral Massera a été fait docteur honoris causa pour service rendu sur les conseils de Jorge Bergoglio. De la même manière, lorsque la justice argentine enquête sur un certain nombre de séquestrations, dont celle encore des pères Yoraux et Jalix, pour savoir ce qui s'est passé vraiment, et qu'on demande à l'archevêché de Buenos Aires des documents qui laisseraient à penser que les autorités ecclésiastiques étaient au courant. Bergoglio ne donnera aucune information à la justice. C'est son successeur, président de la conférence épiscopale, qui donnera des éléments de compréhension de la séquestration de Jalix et de Yoro. Donc Bergoglio a une responsabilité historique. La preuve, lorsqu'il y a le procès en 2007 de cet aumônier militaire qui a 15 morts sur la conscience, qui a mené des séances de torture avec les militaires argentins, il dit en 2007... C'est un procès contre l'Église, c'est une persécution contre l'Église. Quand la sanction tombe, prison à vie. La déclaration de Bergoglio, c'est de dire « il s'agit d'un cas isolé ». La condamnation de ce prêtre ne doit rejaillir sur la responsabilité historique de l'Église catholique, historiquement responsable et politiquement responsable de s'être fourvoyée dans une collaboration éhontée avec une dictature aussi sanglante que celle de Videla.
Monsieur Doublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Doublon, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi.
pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur tout blanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur tout blanc, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers, avec deux bras noués autour de ma misère. On n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur tout blanc, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, monsieur tout blanc, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Alors on a traversé le cimetière, on a vu des grandes tombes, des petites tombes, et là on vient d'entrer par cette vieille porte rouillée en fer là, qui est avec une cuisinière rouillée dans un terrain vague, avec des herbes hautes, des arbres morts, un mur de briques, on sent un certain abandon recouvert par la végétation, et au-dessus des murs, de l'autre côté de la rue, des immeubles dont les fenêtres donnent sur ce terrain. Alors, on voit qu'il y a des choses qui ont été creusées à différents endroits. Et c'est par cette porte ?
Por esa puerta, entre 1976 y 1978, ingresaban camiones militares trayendo cadáveres de personas desaparecidas.
Par cette porte, entre 1976 et 1978, entraient des camions pleins de cadavres de personnes disparues.
On sait combien de corps ?
En este lugar nosotros hemos recuperado 340 esqueletos humanos.
Dans cet endroit, on a récupéré 340 squelettes humains.
On est en 1995, que vous entendez là, date de 1995, nous étions en reportage à Buenos Aires avec l'équipe d'anthropologie légiste. Il s'agissait de jeunes anthropologues qui, à l'époque, avait choisi de se lancer dans des recherches sur les restes humains des victimes de la dictature. Les gens qui ont été torturés, à mort, fusillés, entassés dans des charniers. Je rappelle, 30 000 morts et disparus lors de ces 7 années de dictature, et qui, contre la vie générale, contre les lois elles-mêmes à l'époque, persistait à vouloir œuvrer pour la mémoire. Je dis à l'époque parce que, après la dictature, des lois ont été votées en Argentine pour dire c'est terminé, on n'en parle plus, c'est le point final, c'est l'amnistie. Et le président Carlos Menem, qui était au pouvoir en 1995, avait amnistié personnellement, par décret, des centaines de militaires. Or, les Argentins, dont ces jeunes, à l'époque, Argentins anthropologie légiste et beaucoup d'autres, ont lutté quand même. On dit, bon, ok, la loi interdit d'espérer la justice, mais nous, on va quand même travailler pour la vérité, pour la mémoire. Ils se sont entêtés et ils ont fini par l'emporter. Ils ont fini par l'emporter en 2003, sous la présidence de Nestor Kirchner. Eh bien, les lois d'amnistie ont été considérées comme anticonstitutionnelles. Elles ont été annulées et la justice a pu commencer à faire son œuvre en Argentine. Et c'est très très important. En général, mais pour l'Argentine tout particulièrement, parce qu'il faut une justice historique si on veut une justice sociale. Tant qu'il n'y a pas de justice historique dans la mémoire, il ne peut pas y avoir de justice sociale, d'espérer une justice sociale dans un pays. C'est pour ça que je suis content de vous faire entendre à nouveau, un peu en hommage, c'est vrai, à ceux qui, à l'époque, se sont battus quand même contre vents et marées et pour la mémoire.
Alors on entre et voilà les caisses de carton. C'est extraordinaire parce que par hasard il se trouve que les caisses de carton c'est production argentine, production de l'Argentine. Flor de Valais.
Son cajas malsanas que utilizamos. No están hechas específicamente para esto.
Ce sont des boîtes de pommes qu'on a utilisées. Elles n'ont pas été faites pour ça.
Voilà, et alors on voit, quand on voit ESQ, c'est Esqueleto. Alors chacun a déjà un numéro. Esqueleto numéro 22, Esqueleto numéro 27, Esqueleto numéro 3, etc. Et au-dessus, c'est la date de découverte. 3-5-89, 1-11-89, 91 là-bas. Etc. Mais sur les corps que vous retrouvez, est-ce que vous voyez des traces de balles, des traces de torture?
Lo que muchas veces encontramos es que la gente moría por disparos efectuados en el cráneo, que eran más parecidos a fusilamientos.
Oui, ce qu'on a trouvé la plupart de fois, c'est que c'est des morts avec un coup de fusil dans le crâne, ce qui a plutôt l'air d'une exécution que
d'une lutte.
En Argentina hubo 365 centros clandestinos de detención.
En Argentina hay 365 centros clandestinos de detención, que campos de concentración.
Que funcionaban en unidades militares o policiales.
Qui fonctionnaient dans des unités militaires ou policières.
Lo que pasaba es que las personas eran secuestradas, llevadas a esos lugares donde podían permanecer una semana o varios meses torturadas y después asesinadas.
Et les gens étaient kidnappés et transportés à ces endroits-là où ils pouvaient rester une semaine ou un mois et après ils étaient tués et transportés à des endroits comme celui-là.
Ici, il y avait la torture.
Acá había tortura además.
Si, ici, il y avait en plus la torture.
Votre hypothèse, elle est que tout ça était planifié, organisé, n'était pas un accident. Que cette torture était voulue, était pensée, préméditée.
Non, si, por supuesto, acá hubo un plan, hubo órdenes claras. Nosotros tenemos la ventaja que, al igual también que en Alemania nazi, la máquina burocrática administrativa seguía funcionando. Y tenemos muchos papeles y documentos de esa época donde vamos atisbando algunos elementos.
Oui, évidemment, c'était un plan. Et nous avons, comme dans l'Allemagne nazie, des documents, c'est-à-dire la structure bureaucratique continue à travailler. Alors, on a beaucoup de documents, beaucoup de papiers qui prouvent ce qui s'est passé, qui prouvent que c'était évidemment un plan.
C'est-à-dire qu'il y a la volonté de faire disparaître les disparus.
Exactement, parce qu'il y a deux effets. Por un lado, la gente no está ni viva ni muerta, está en especie de un limbo.
Exactement, parce qu'il y a un double effet. D'une part, les gens ne sont ni morts ni vivants, ils sont dans une espèce de limbe.
Y por otra parte, multiplica el terror en la familia y en los amigos.
Et d'autre part, ça provoque une terreur permanente chez les amis et chez la famille.
Est-ce que le fait qu'il y ait des dizaines de milliers de nazis accueillis chaleureusement dans ce pays, est-ce que tu crois que ça a une influence sur la dictature et sur la technique de torture et de destruction?
Non, je crois que la influence más importante vino de los franceses en Argelia y de Estados Unidos.
La plus grande influence est venue des Français en Algérie, les méthodes des Français en Alger et les méthodes des États-Unis.
Est-ce qu'il y a des militaires français, des conseillers français qui sont venus ici en Argentine et qui ont influencé? Est-ce qu'on a des traces de cette influence?
Acá la es mucho más sutil de lo que fue en el resto de América Latina o en África la influencia en ese sentido que pudieron tener los militares. Más que nada se daba a partir de viajes de militares hacia esos países a tomar cursos de entrenamiento.
Oui, on n'a pas de renseignements sur des assesseurs français ici, mais on sait des voyages des militaires argentins qui allaient en France et aux États-Unis et suivre des cours à propos de ce genre de technique.
Ah, des cours de torture. Il y aurait eu à l'époque des
Se llaman cursos de lucha contra la insurgencia.
On appelle ça des cours de lutte contre la subversion.
Bien sûr, on va pas appeler ça des cours de torture.
C'est une façon de parler.
Et vous avez découvert combien? Vous avez pu identifier combien de corps?
Hasta el momento han sido identificadas 8 personas.
On a pu identifier 8 personnes et
8
seulement.
8 personnes sur 340.
Sí. Y cada pequeña historia, que es la historia de esa persona, es la historia de nuestro país.
Et chaque petite histoire, chaque histoire individuelle est l'histoire de notre pays.
Vous espérez encore que les coupables seront jugés dans votre pays?
No, en nuestro país, en la Argentina, ya todas las personas están en libertad, los culpables de estos hechos.
Malheureusement, chez nous, les coupables sont en liberté.
¿Qué es que vous pouvez faire? Vous avez des lois d'amnistie, vous avez tout contre vous.
Por un lado, es la posibilidad del familiar que sigue queriendo recuperar los restos de su ser querido y saber qué pasó. Y por otra parte, es la reconstrucción histórica y la preservación de la memoria histórica.
Au moins, c'est pouvoir donner aux familiers des nouvelles de ce qui s'est passé, ou bien au moins avoir vraiment la mémoire historique et éclaircir les faits tels qu'ils se sont produits.
Comment votre travail est reçu par l'opinion?
Le cas argentin est très particulier. Le thème de ce qui s'est passé dans le pays il y a 20 ans, les disparus, sigue siendo un thème tabou en certain modo.
En Argentine, ce sujet est encore un sujet tabou.
La memoria de la sociedad argentina en general es muy corta y hay muchas ganas de olvidar lo que pasó.
La mémoire de la société argentine est très restreinte, on a une très grande envie d'oublier.
C'est le pays de l'oubli.
En cierto sentido, yo creo que sí.
Y dans un certain sens, oui, c'est le pays de l'oubli.
Est-ce que vous avez des oppositions de la part des anciens militaires et des anciens tortionnaires de ce pays d'une façon ou d'une autre?
No, no hay oposición. Hace ya 4 años todos los implicados en estos hechos fueron indultados por el presidente, perdonados y están libres.
No, vraiment il n'y a pas d'opposition parce que il y a 4 ans que tous les coupables ont été amnistiés par le président et ils s'occupent pas de ce genre de choses. Ils savent que on va pas trouver de nouveaux motifs pour leur procès, donc ils sont libres.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de vals, mi tabaco, mi tango, mi puñado de flin. Me pondré por los hombros y abrigo toda el alba. Mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sean las 6, cuando sean las 6, cuando sean las 6, cuando sean las 6.
À Buenos Aires, en 1995, vous l'avez entendu, les plus courageux, les plus engagés pensaient que jamais la justice n'interviendrait. Et voilà que des années après, grâce à leur combat courageux, eh bien, la justice est en route depuis maintenant une dizaine d'années en Argentine. Un autre des pionniers de travail pour la justice, c'est Horacio Verbitsky, qui est un écrivain, qui est un journaliste que nous avions rencontré à l'époque en 1995. Il venait de publier un livre qui a eu un très grand retentissement qui s'appelait El Vuelo, le vol, où il racontait
il diffusait l'aveu du capitaine Chilingo, qui fut celui qui organisait les vols au cours desquels, au-dessus de la baie de Buenos Aires, on jetait les opposants à la mer selon des procédés inspirés et conseillés par les militaires français. Nous en parlerons dans les émissions à venir, nous reviendrons là-dessus dans les émissions à venir, mais ce qu'on voulait avoir avec Antoine Chao, c'est le point de vue d'Horacio Verbitsky aujourd'hui sur ce qui nous intéresse, sur ce pape qu'on peut déjà au moins soupçonner d'indifférence coupable face aux horreurs commises. Ça déjà, ça c'est une certitude, mais maintenant, était-il plus engagé contre l'Église à l'époque, quelles ont été ses responsabilités par rapport aux tortures de ces deux prêtres, notamment. Voilà ce qu'Horacio Verbitsky nous a dit par téléphone.
Allô ?
Ah, Horacio ?
Allô, qui parle ?
C'est Daniel qui parle, ouais. Et je suis
comment
avec...
ça va, Daniel ?
Horacio, on s'est vu en 1995 à Buenos Aires. Et on avait fait un entretien sur votre livre qui était El Vuelo.
El Vuelo.
Alors, Horacio Verbitsky, vous avez publié en 2005 un livre, Il Silencio.
C'est le livre où sont les documents de la polémique actuelle.
Voilà, qui porte sur l'histoire de l'Église au temps de la dictature, c'est bien ça. Et dans ce livre, vous parlez du pape actuel.
Oui, naturellement, Monseigneur Bergoglio, au moment du coup d'État, avait 39 ans, il était le supérieur général de la Compagnie de Jésus à l'Argentine et a ordonné les prêtres François Jalix et Orlando Jorio de la Compagnie de Jésus d'abandonner le travail social. Ils avaient avec les quartiers plus pauvres de Buenos Aires, les bidonvilles de Buenos Aires, et ils ont refusé l'ordre. Et il a décidé d'expulser ses prêtres de la compagnie. Et après cette expulsion, ils furent séquestrés, kidnappés par les troupes de la marine argentine. Ils ont été torturés pendant 5 mois. Et finalement, ils ont été libérés.
Donc,
après sa libération, les deux prêtres ont dénoncé Bergoglio et ont dit qu'il a été responsable de leur enlèvement par les troupes militaires.
Vous avez des documents là-dessus ?
Oui, et il y a des documents et il y a des témoignages personnels. En 1977, un de ces prêtres, Orlando Jorio, a envoyé une lettre à la Compagnie de Jésus à Rome où elle dénonçait Monsieur Bergoglio. Et j'ai en copie de cette lettre qui m'était donnée par le frère et la sœur d'Orlando Jorio. Et Père Jalix, l'autre prêtre, a écrit un livre où il raconte cet événement et a accusé dans son livre le supérieur de ces situations qu'il a traversées. La différence, c'est que Jalix, dans son livre, parle de l'autorité supérieure sans mentionner de forme explicite Bergoglio. Et lui, personnellement, m'a confirmé que cette personne était Bergoglio. Et après l'élection du pape François, Jalix a dit qu'il a pardonné. Et on pardonne quelqu'un qui est responsable de certaines fautes. Parce que sinon, il n'y a pas besoin de pardonner.
Yo voy a sostener con ella una charla y le voy a decir, hoy vino un tipo francés y grabamos y nos recordamos a ustedes. ¿Y vos qué opinás? Y seguramente ella se va a reír, va a estar de acuerdo o no. Siempre estamos discutiendo con ellos.
Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un disparu, c'est maintenant je vais retourner chez moi et je vais m'asseoir et je vais parler avec ma fille et je vais lui dire aujourd'hui il y a un Français qui est venu et on a parlé de toi, on s'est rappelé, et puis elle va rigoler, elle sera d'accord ou elle sera pas d'accord, et on continuera à parler avec elle tout le temps, toute la vie, et c'est ça un disparu.
Ah. C'est quelqu'un qui n'est pas là et avec qui on parle.
Monsieur Toutblanc, lorsque vous êtes témoin d'une injustice et que vous vous taisez, vous êtes complice. On continue demain. Monsieur Toutblanc avec Antoine Chaouegui-Vanctine. Merci à Christian Terrasse, rédacteur en chef de Goliath. Merci à Horacio Verbitsky de Parinados. Merci à Marcos Garcia Herrera de Lina. Les archives du reportage de la Basse Égypte en Argentine dataient de décembre 1995 avec à l'époque Laurent Thomas qui était notre réalisatrice. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme émission La Basse J'y suis. Également sur le site labas.org, la-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission à la technique aujourd'hui. Basile Bocquer et Michel Thomas, Franck Adhérer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Léa Minot. Attendez à présent vos messages sur le répondeur de La Basse J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Étendez l'oreille, il y a peut-être un bruit de casserole.
Futuroscope. Imaginez des images géantes sur écran d'eau, des fontaines spectaculaires et des flammes multicolores, des lasers et des effets spéciaux uniques au monde.
Le Futuroscope vous présente sa nouvelle féerie nocturne, contée par Nolwenn Leroy. Vous n'en croirez pas vos yeux.
Un spectacle de scherzo sur une musique de Bruno Coulet. Représentation tous les soirs.
Futuroscope. Toute l'année, le séjour 2 jours 1 nuit est à partir de 41 € par jour et par personne, spectacle nocturne inclus. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
France Inter présente « Après la bataille » de Yousri Nasrallah en coffret DVD. Février 2011, Mahmoud est l'un des cavaliers de la place Tahrir qui charge les jeunes révolutionnaires. Rim est une jeune femme moderne. Elle veut changer son pays. Après la bataille, c'est leur rencontre. Un regard sensible et politique sur la société égyptienne. Un coffret DVD France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition Musique et cinéma, Le mariage du siècle, actuellement à la Cité de la musique à Paris. Que serait la magie du cinéma sans l'émotion de la musique ? Plongez dans les coulisses de la fabrication des grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma à travers plus de 100 extraits, photos, documents inédits et ateliers ludiques. Retrouvez l'exposition Musique et cinéma, Le mariage du siècle, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Le temps de l'aventure, un film de Jérôme Bonnel avec Emmanuel Devos et Gabriel Byrne au cinéma le 10 avril. Une journée, un train, deux inconnus, des échanges de regards, le cœur qui bat. Le regarder partir, le perdre à tout jamais ou s'offrir au temps de l'aventure. Retrouvez Emmanuel Devos le 14 avril à 10h10 dans Éclectique.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour La Basse J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
La France n'envisage pas d'évacuer ses 2000 ressortissants de Corée du Sud. On n'en est pas là, déclare aujourd'hui le porte-parole du Quai d'Orsay. Après l'appel aux représentations diplomatiques sur son territoire, Pyongyang a lancé aujourd'hui un appel aux étrangers vivant en Corée du Sud. La Corée du Nord a de nouveau en fait agité aujourd'hui le spectre d'une guerre thermonucléaire. Un colon israélien a été condamné à Jérusalem aujourd'hui à la prison à vie pour la mort de 2 Palestiniens. Les faits remontent à 1997. Par ailleurs, au terme de 3 jours de visite en Israël et dans les territoires palestiniens, le secrétaire d'État américain a promis aujourd'hui de relancer l'économie palestinienne avec le concours de l'État hébreu. Cet effort, explique John Kerry, ne vise pas à ramener les deux parties aux négociations. Il s'agit de conduire tout le monde vers la paix. Il est plus important de faire bien que vite. 5 répliques ont été ressenties dans l'heure qui a suivi le tremblement de terre en Iran aujourd'hui. Il s'est produit à moins d'une centaine de kilomètres de la ville de Bouchehr, où est située la seule centrale nucléaire iranienne. Elle est intacte, d'ailleurs selon le gouverneur de la province. Pour le reste, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts causés par ce séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter. On sait seulement que 3 personnes ont été tuées. Les salariés de PSA Aulnay en tête de cortège, plusieurs milliers de personnes continuent de défiler actuellement dans les rues de Paris contre le vote du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Selon le numéro 1 du Parti communiste Pierre Laurent, cette manifestation est un dernier appel solennel aux députés pour leur dire de ne pas voter le texte. Les parlementaires qui doivent procéder au vote cet après-midi après les questions d'actualité au gouvernement. Et justement, lors de ces questions, le débat était plutôt vif aujourd'hui à l'Assemblée. Pierre Moscovici s'est à nouveau défendu d'avoir couvert Jérôme Cahuzac. Le ministre de l'économie en a profité pour lancer une contre-attaque en direction de Jean-François Copé. Le patron de Bercy reproche à celui de l'UMP de cumuler sièges de député avec ses activités d'avocat d'affaires. Bernard Cazeneuve a lui aussi pris la parole devant les députés cet après-midi. Le nouveau ministre du budget a assuré qu'il n'y aurait pas de cellule de régularisation ni d'amnistie pour les fraudeurs. Il demande d'ailleurs à la presse, en l'occurrence Le Monde, de transmettre à la justice les fichiers Offshore Leaks sur lesquels le journal a planché pour publier son enquête sur les paradis fiscaux. Un peu plus tôt ce matin, devant les députés socialistes, Jean-Marc Ayrault a lui promis des mesures de lutte contre la délinquance financière, la fraude fiscale organisée et les paradis fiscaux. Elles feront partie du projet de loi sur la moralisation de la vie politique qui sera présenté en Conseil des ministres le 24 avril prochain. La ville de Montreuil est la seule propriétaire de la toile de Paul Signac. Décision du tribunal de grande instance de Paris aujourd'hui, qui va donc contre la demande d'une héritière du peintre qui souhaitait récupérer le tableau géant. La toile du maître du pointillisme pourra donc continuer d'orner l'escalier de la cour d'honneur de la mairie de Montreuil en région parisienne. Elle y est d'ailleurs depuis 1938. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Cette semaine dans le Pont des Artistes,
les chanteurs sont mes amis.
Isabelle Dordain donne carte blanche à Dominique A.
Les chanteurs sont mes amis.
Avec Messia, Maud Lubeck.
Oh s'il te plaît mon ami.
Barbara Carlotti.
Refais-moi donc ta doudou.
Lise et Mina Tindall.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre. Il paraîtrait que c'est l'heure de Carrefour de l'Odéon de Frédéric L'Odéon. Eh ben oui, c'est parti.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je vous propose une émission autour de Giuseppe Verdi, qui est né il y a presque 200 ans, mais on ne va pas attendre la date précise du 10 octobre pour le célébrer. Non, non, on commencera à cette époque-là, bien sûr. Et il est né ou le 10 du mois d'octobre 1813, ou le 9. Sa mère disait que c'était le 9. Et lui, d'ailleurs, il a toujours célébré son anniversaire à cette date-là. Mais tous les commentateurs s'accordent à dire que c'est le 10. Et peu importe d'ailleurs, 1813, c'est sûr, c'était dans le hameau de Bussetto, près de Parme. Le duché de Parme appartient alors au département français du Tarn. Donc Verdi est né français, on l'appelait Joseph au tout début. Et puis en 1814, l'Autriche a repris Parme. Il est devenu d'ailleurs sujet de Marie-Louise. Mais l'univers de Verdi est très très intéressant parce qu'il n'est pas miséreux. Il y a de la musique quand même autour de sa famille. Son père Carlo est aubergiste et petit exploitant agricole. Sa mère Luigia, peut-être illettrée, était fileuse tout simplement. Et la taverne paternelle fait aussi hôtel et épicerie. Carlo, le père, gère les comptes. Veut donner à son fils une éducation correcte. À 7 ans, il va l'envoyer auprès d'un certain Maestrocchi, instituteur et organiste, qui va lui offrir une épinette, miracle, une sorte de petit clavecin. Et Verdi va commencer, mais difficilement, il va avoir beaucoup de déboires. Il va être refusé au conservatoire de Milan, ce qui est un comble, alors que le conservatoire aujourd'hui s'appelle justement Giuseppe Verdi. On dit qu'il se tient mal au piano, il va se marier, il va perdre 2 enfants successivement, et puis la belle Margherita, sa femme, va décéder aussi. Enfin, bref, des épines au début, pour arriver finalement à son premier succès. Il rencontre un ami qui lui propose un livret, Nabucco, Nabucodonosor. Il est finalement sorti de sa dépression par ce travail et il aboutit à écrire ce qui est le deuxième hymne italien. C'est ce qu'on considère en général. C'est le cœur des esclaves hébreux de Nabucco, le fameux « Va pensiero, va ma pensée » sur les ailes du souvenir. Les esclaves sont tenus, bien sûr, emprisonnés. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays et ça a frappé l'Italie à ce moment-là, puisque l'Italie était sous le joug. L'Italie n'était pas indépendante. Elle allait se libérer par la suite. « Va pensiero, cœur des esclaves hébreux ».